Traditionnellement, le mystère de Cana est une annonce de l'Eucharistie et de l'heure des noces, hein, des noces de Jésus avec son peuple. Hein, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Donc Cana est déjà une figuration, une annonce du mystère de l'Eucharistie. Hein. L'eau à Cana se change en vin, et le vin à la Seine se changera en sang, et le sang se change en feu à la Pentecôte. Hein, on nous dit à la Pentecôte, ils sont pleins de vin doux. En fait, ce vin, c'est cette ivresse de l'esprit, cette présence du Seigneur qui devient du feu. Donc, c'est important peut-être pour nous, vous voyez, quand on communie, quand on va à la messe, de se dire qu'en fait, ce qui explique la messe, c'est Cana. Qu'est-ce que c'est que la messe, sinon un mystère d'alliance, d'épousaille, où Jésus veut donner son corps? Et ça, tu le comprends bien, parce que tu reviens à Cana. Hein, les signes, vous voyez, qui annoncent l'Eucharistie nous permettent de comprendre l'Eucharistie. Les multiplications des pains, par exemple. Si je veux bien comprendre l'Eucharistie, il faut que je revienne aux multiplications des pains. Jésus qui va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. C'est exactement le mystère de l'Église qui se met en place. Jésus fait le miracle, mais c'est les disciples, les apôtres qui donnent la nourriture. Donc, oui, je ne vais pas vous refaire une homélie sur le mystère du mariage, parce qu'on a étudié ce texte-là la fois dernière, mais plutôt nous rappeler, première chose, que Dieu veut épouser chacun d'entre nous, ce mystère d'épousailles. Ça s'appelle l'alliance, ça s'appelle la Pâque. Il nous libère pour en fait être avec nous. C'est intéressant d'ailleurs, dans la Pâque juive, on lit le Cantique des Cantiques. Au cœur de la Bible, le texte, on ne sait pas qui est le bien-aimé, la bien-aimée, ils ne sont pas identifiés dans le Cantique des Cantiques, mais on comprend que c'est Dieu qui veut faire alliance avec son peuple. Alors, Dieu change la matière pour donner sa présence. La question, c'est comment accueillir sa présence. Et du coup, je voudrais m'intéresser aujourd'hui non pas aux mariés, mais à ceux qui permettent ce miracle. Et ceux qui permettent ce miracle, il y en a trois. Il y a la Vierge Marie, il y a les serviteurs et il y a le maître du repas. On s'aperçoit que Dieu peut faire des choses. Mais si nous n'accueillons pas ce qu'il fait, il joue dans le vide, là. Bon. Alors, et du coup, nous sommes un petit peu chacun des trois personnages, vous comprenez. Bon. Donc, la première chose, c'est nous sommes ou nous accueillons. Hein. Pour Marie, c'est peut-être plus nous accueillons Marie. En tout cas, Marie, vous voyez, elle est nommée. En fait, elle n'est pas nommée par son prénom. Hein. La mère de Jésus était invitée. Donc, ce qui nous intéresse, vous voyez, c'est on ne connaît pas son prénom. Et si on n'avait que l'évangile de Jean, on ne connaîtrait pas le prénom de Marie. Ce qui intéresse chez Jean, c'est ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Elle est la mère de Jésus. Donc, ça veut dire qu'elle donne la vie, elle donne Jésus. Bon. Et du coup, là, Marie va enfanter Jésus à sa vie publique. Elle le met en piste, un peu comme dans son baptême, le Père envoie son Fils. C'est très important, enfin, moi je peux dire qu'en 15 ans de sacerdoce, j'ai vu les bienfaits de l'être féminin. Dans l'Église, il y a une vraie question, c'est la question de la place de la femme. J'ai bien vu, en participant à différents groupes, comment... c'est une grâce de femme. La femme a l'intuition des besoins et c'est très beau quand il y a une complémentarité, vous voyez, homme-femme, où la femme apporte à l'autre en fait ce qu'elle repère et elle dit à l'autre en quelque sorte prends une décision. Donc nous, les hommes, il faut qu'on soit attentifs à ce que nous disent les femmes. Et les femmes, il ne faut pas hésiter à porter à l'homme, au sens large, à l'humanité, eh bien, ce que vous voyez de juste, parce qu'on ne voit pas forcément les choses. Voilà, donc il me semble que l'Église a encore à progresser sur en fait, cette place de la femme comme quelqu'un qui voit au-delà du réel les besoins. Donc, en tout cas, vous voyez, elle conduit Jésus à se manifester et elle conduit aussi les disciples à obéir, les serviteurs à obéir. Hein ? Elle va en fait introduire ses serviteurs à ce mystère d'alliance, à entrer dans cette obéissance. Le « faites tout ce qu'il vous dira » sont en fait les dernières paroles de Marie dans l'Évangile. Alors, ces paroles « faites tout ce qu'il vous dira » sont très fortes, puisque en fait elle reprend une formule d'alliance. D'alliance, c'est-à-dire dans la Bible, Dieu va donner les commandements, et ensuite le peuple dit ben, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Et c'est à plusieurs reprises que vous avez cette formule d'alliance. Vous l'avez en Exode 19, en Exode 24. C'est vraiment l'identité d'Israël. Bon, ben voilà, tout ce que Dieu a dit, tous ses commandements, etc., les tables de la loi, ben, nous le ferons et nous comprendrons. Donc en quelque sorte, Marie, voyez, introduit le peuple, les serviteurs, à vivre une alliance, à faire alliance. Alors c'est là où je m'intéresse maintenant, vous voyez, alors du coup peut-être pour nous, vous voyez, d'abord accueillir Marie dans notre vie. Je pense qu'on le voit chez les saints, une des clés de la fécondité spirituelle, de leur réussite, c'est l'accueil de Marie. Quand vous voyez un grand saint, vous voyez toujours la Vierge Marie, en plus ou moins mis en valeur, mais... prenez la vie des saints, vous repérez. Voilà. Et on le voit chez Pierre Goursat aussi, mais il y a une entrée de la Vierge Marie à un moment donné de sa vie. Donc, vous voyez, comment, et le début de l'Église, c'est Marie avec les apôtres au Cénacle. Donc, comment Marie est présente dans ma vie, c'est une vraie question. Et puis, peut-être avoir cette attitude de Marie, c'est-à-dire d'être veilleur et puis de dire les choses. J'ai une intuition, je la vois. L'Église se construit avec des gens qui arrivent à dire leurs intuitions et puis à les réaliser. Bon. La deuxième attitude, c'est donc les serviteurs. Alors, les serviteurs, ce qui est beau pour nous, c'est que ils vont faire les choses sans comprendre. Et ils ont vraiment cette attitude d'obéissance. Donc, ce que je mets en valeur, c'est l'obéissance. On dit remplissez les jarres et ils les remplirent. Puisez maintenant et ils puisent l'eau. Portez-en au maître et lui en portèrent. Qu'à chaque fois, oui, ce qui est dit, eh bien, est exécuté. C'est pas facile de puiser de l'eau. Enfin, c'est un peu ridicule. Hein. Il manque du vin, vous allez puiser de l'eau. Enfin, voilà. Mais peut-être pour nous, vous voyez, cette image du serviteur, de quelqu'un qui entre dans un chemin d'obéissance, là encore, c'est le mystère du peuple d'Israël, en fait, qui est vraiment un peuple quand il passe de la servitude au service, de l'esclavage à l'obéissance. Là encore, dans la vie des saints, il y a toujours un mystère d'obéissance. Notre frère Pierre Goursat, était quand même quelqu'un qui était très, très lié à l'Église aussi, institution. Il était conseiller, il était accompagné. Il faisait pas son truc dans son coin comme ça. Tiens, je le sens, je le fais. Il y a toujours une écoute. Et à la fois, je pense que la communauté, vous voyez, donne à l'Église, un peu comme la Vierge Marie, une sorte d'intuition. Et l'Église réalise, entend, et bon, dans les deux sens. Donc trois ordres, remplissez, puisez, portez-en, trois ordres qui signifient une plénitude, hein, le chiffre 3 sur la plénitude. Bon. Donc il y a comme une plénitude de l'obéissance. Donc ça veut dire pour nous, voyez, en fait, qu'est-ce que Dieu me montre dans ma vie ? Ben, j'ai des intuitions et il faut que je passe à l'obéissance. C'est-à-dire, voilà, j'ai senti quelque chose, un appel, ça peut être un appel intérieur, un appel extérieur, mais il faut que j'exécute. Je prends un exemple, si je sens qu'il faut que je me fasse accompagner, par exemple, psychologiquement, je sens ça comme appel, il faut que j'obéisse. Intérieurement, il faut que je passe à l'exécution. La différence entre nous et les saints, c'est que les saints, ils savent ce qu'est le bien, et nous, on sait ce qu'est le bien, on exécute, mais les saints, ils font le bien. Ils réalisent ce qu'ils pensent être bien. Et nous, on sait ce qu'est le bien, mais il faut parfois, enfin, il faut passer à l'obéissance, à la réalisation. Donc c'est très large, hein, la matière à laquelle nous avons à obéir. Troisième personnage, c'est le maître du repas. C'est intéressant parce qu'on n'apporte pas le vin aux invités. On l'apporte au maître du repas. Pourquoi ? Parce que le maître du repas, c'est celui qui, pendant le repas, boit plutôt du Schweppes, de l'eau gazeuse, mais il ne boit pas de vin. Il ne peut pas boire de vin pendant le repas parce qu'il faut qu'il soit très clair. Et pour maîtriser la situation, il faut qu'il soit très éveillé. Et donc, nous, c'est la même chose, vous voyez, nous allons entendre, découvrir, accueillir, percevoir le bon vin, la présence même de Dieu, si nous ne sommes pas sous, si nous ne sommes pas dans la brume, hein, si nous ne sommes pas enivrés par des tas de choses de ce monde. Donc, il faut arriver à repérer, vous voyez, ce qui, en quelque sorte, nous saoule. Et peut-être, vous voyez, cette année foyer de lumière, c'est un peu la fonction. La fonction, c'est de dessouler. Mais oui, c'est-à-dire de sortir de l'agitation, de sortir des activités, de sortir des missions, de sortir de plein de trucs, pour, comme le maître de repas, en fait, être sensible au bon vin. Et quand on va me donner le bon vin, ben, je vais goûter les choses et je vais le reconnaître. Donc, il nous faut dégriser d'une vie qui, peut-être, nous saoule. Alors, je repère, vous voyez, ça peut être le bruit dans ma vie, ça peut être des jalousies, on a évoqué le thème du pardon. Oui. Si je suis enfermé par rapport à quelque chose, je ne pourrai pas goûter le vin, la présence. Ça peut être des désirs qui m'empêchent de désirer le tout autre. Hein? Aujourd'hui, Seigneur, montre-moi ce qui m'empêche de goûter ta présence. Ça peut être le bruit, et ça peut être aussi l'absence de bruit. Quand on entre dans une communauté religieuse, puis quand tout est très calme, communauté ou pas religieuse, une communauté au sens large, il faut se méfier. Il n'y a pas beaucoup de vie dans cette communauté. C'est bizarrement trop calme. Il y a des couples, c'est pareil. Bizarre, ah oui. Ils sont très silencieux. Et ce n'est pas des moines. Est-ce que ce silence ne cache pas quelque chose? Vous voyez, Jésus, même lui-même, dans l'évangile de Luc, on s'aperçoit que quand il prie, il goûte la présence du Père. Vous l'avez au baptême. Alors qu'il priait, les cieux s'ouvrirent et la voix du Père se fit entendre. Transfiguration, même chose. Alors qu'il était sur la montagne en train de prier, les cieux s'ouvrirent et la voix du Père lui dit. Donc, chez Jésus, vous voyez, il est comme ce bon maître qui, de temps en temps, eh bien, ne s'enivre pas des choses de ce monde pour être avec son Père et du coup entendre son Père. Voilà, donc essayons de... Ces trois personnages, ça fait peut-être beaucoup, mais peut-être il y a quelque chose par rapport à la Vierge Marie, un enjeu dans notre vie. Peut-être il y a quelque chose par rapport au serviteur, à la question de l'obéissance dans ma vie. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au maître du repas, et donc à cette capacité de ne pas compenser avec des petites choses, en tout cas d'avoir l'esprit clair pour goûter la présence du Seigneur.